À quoi va ressembler le travail dans les années qui viennent? Bien malin celui qui peut donner une réponse aujourd'hui. Mais tout porte à croire que les ferments d'une transformation profonde sont ensemencés et ne demandent qu'à éclore. Le gouvernement l'a senti, lui qui prépare un projet plein emploi. On y retrouve d'ailleurs une nouvelle répartition du temps, la notion de valeur portée haut, mais aussi une protection des seniors qui détiennent l'expérience et peuvent la partager. Une partie du texte sera entre les mains des partenaires sociaux pour bâtir un catalogue de mesures qui répondent aux attentes des patrons et des salariés. Et justement, les salariés, que disent-ils? Comment voient-ils l'avenir? Je suis Raphaël Duchemin et nous allons plonger ensemble dans l'étude Hopes and Fears réalisée par PwC. Ce baromètre permet de connaître de manière fine les craintes et les espoirs de ceux qui font le monde du travail dans les entreprises. Ils sont 53 912 à avoir été interrogés de par le monde, 2142 en France. Alors que disent-ils? Eh bien pour le savoir, je vais demander à Frédéric Petitbon et Mathieu Aubusson de m'éclairer, tous deux associés chez PwC, en charge des sujets liés au capital humain.
PwC, en direct.
Mathieu, bonjour.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Frédéric.
Bonjour Raphaël.
Je suis ravie d'être avec vous. On va décortiquer cette étude que vous avez menée ensemble. Il y a 6 mois, si mes souvenirs sont bons, la rémunération était une des préoccupations majeures des collaborateurs. Manifestement, cela n'a pas changé, mais entre-temps, l'inflation est passée par là et c'est vrai qu'elle a sérieusement abîmé les marges de manœuvre financières des collaborateurs. Et ça, ça ressort hein, manifestement dans cette étude.
Un salarié sur 5 n'arrive pas à joindre les deux bouts. Les sujets financiers de fin du mois sont devenus absolument cruciaux. Et ceci, d'ailleurs, on le voit dans le monde entier. La tendance n'est pas uniquement française, elle est mondiale. Une personne sur 5 n'arrive pas à finir le mois correctement.
Alors, vous parliez de l'étranger, Frédéric. À l'étranger, justement, certains travailleurs cumulent des emplois différents pour arriver à joindre les deux bouts. C'est une pratique qui, manifestement, n'est pas très répandue en France, seulement 12%. Question de culture, peut-être?
Oui, question de modèle social aussi, avec une logique de protection sociale et finalement de financement du non-emploi ou des périodes de la sorte qui est différente. Et finalement, effectivement, le phénomène qu'on voit notamment dans les pays anglo-saxons où les personnes qui ont du mal sont quasiment pour toutes dans une situation où elles exercent plusieurs emplois n'est pas encore répandu en France, en effet.
Ce qui ressort aussi, c'est que le travail, en dehors du salaire, n'est plus seulement une source de rémunération. C'est aussi, et ça transparaissait, je crois, aussi un peu déjà dans la précédente étude, un lieu où on a envie et besoin de s'épanouir, d'être soi, de trouver une place.
C'est une des bonnes nouvelles de notre étude, c'est que globalement, beaucoup de salariés sont, je dirais peut-être pas heureux, mais épanouis dans leur travail qui leur apporte intérêt, sujet de complément relationnel, passion. Donc il y a une vraie bonne nouvelle sur l'intérêt du travail dans nos salariés. Pas seulement en France, mais aussi en France. Les Français ne sont pas ronchons sur le sujet. Il y a un vrai point positif en France sur le sujet.
Oui, c'est vrai que la qualité, la fameuse QVT, qualité de vie au travail, a l'air de s'être améliorée. Malgré tout, si les dirigeants, eux, ont le sentiment d'agir beaucoup, ce n'est pas toujours le cas quand on pose la question aux collaborateurs. On sent qu'il y a encore une divergence de vue, je dirais.
Là où les dirigeants expriment qu'à 90%, ils estiment être alignés avec ses valeurs et ses objectifs, eux, les collaborateurs, même s'ils témoignent pour plus de la moitié d'entre eux une forme d'épanouissement, ils estiment que dans un certain nombre de situations, ils ne sont pas alignés ou leurs comportements ne sont pas alignés avec les valeurs et les objectifs portés par l'entreprise.
Ce qui est intéressant, c'est que quand on creuse un petit peu dans l'étude, il y a sur la charge de travail un paradoxe justement. Un collaborateur sur 5 l'a vécu et pourtant on vient de dire qu'il y a épanouissement. Comment est-ce que ça s'explique?
Ce qui s'explique, c'est d'abord que le pouvoir a changé. Le pouvoir a changé, c'est le collaborateur qui est sûr de lui, sûr de ses compétences et qui, pour une bonne partie d'entre eux, les jeunes, mais pas que, les métiers de la techno, mais pas que, se sentent en situation d'aller discuter avec leur patron. de mon salaire, de ma place, de mon emploi. Et si ça ne va pas bien, je suis prêt à partir. Donc le pouvoir a changé, c'est une vraie réalité. Et en même temps, tout ceci est avec une charge de travail qui est pour une partie des collaborateurs insupportable. 1 sur 5 qui considèrent que c'est vraiment trop, c'est considérable. Donc on a à la fois des collaborateurs qui sont sûrs d'eux-mêmes, en capacité de bouger, ça c'est merveilleux. Et en même temps, des collaborateurs qui, pour 1/5 d'entre eux, n'est pas assez payé, au point d'être en vraie souffrance, et 1/5 qui n'est pas le même, qui est en vraie difficulté parce que le niveau de charge de travail est devenu insupportable.
Mathieu, surcharge, envie de changer de travail, sur les 12 derniers mois, ça varie aussi, je crois, en fonction des générations. Hein. Il y a un gap qui peut...
Oui, les générations d'IZ sont clairement plus disantes sur ces sujets-là, sur les sujets d'attente, attente sur les rémunérations, attente sur les promotions, attente sur leur volonté aussi de potentiellement quitter l'entreprise. On évoquait ou on évoquera le sujet de la grande démission tant attendue, qui monte en fait, qu'on sent monter.
Celle qui venait des États-Unis et qui n'était pas tout à fait arrivée lors de la dernière étude, hein, en tout cas pas chez nous.
Donc, il n'a pas été complètement la vague annoncée, mais qui, si on interroge les collaborateurs, reste en constante augmentation dans leur volonté ou leur idée de quitter l'entreprise pour aller ailleurs. Et comme le disait Frédéric, avec un pouvoir ou un rapport de force qui s'est clairement inversé. Et aussi le fait que cette surcharge ou cette souffrance finalement au travail s'exprime plus. Elle témoigne aussi le fait que les gens sont en capacité de dire qu'ils sont moins prêts à accepter cette surcharge parce qu'ils estiment qu'ils peuvent partir, pour une partie d'entre eux.
Travailler moins, travailler autrement, mieux répartir aussi peut-être les tâches, penser plus collaboratif. Les principes sont très répandus dans les discours post-Covid. Les patrons ont le sentiment d'être beaucoup plus à l'écoute, ils le disent d'ailleurs, affichent leur volonté de faire ensemble, mais est-ce perceptible du côté des collaborateurs ? C'est capital pour l'entreprise si elle veut demain pouvoir être, continuer à l'être, attractive. Mathieu, Frédéric, la place du travail change manifestement. Le travail en lui-même change aussi. Est-ce que ça ressort dans l'étude que vous venez de mener ?
Ce qui ressort, c'est un besoin de sens à plusieurs niveaux. Le sens dans l'équipe, le sens dans ce que je fais et le besoin d'être aligné, pour utiliser ce drôle de terme, aligné entre ce que je fais et la vocation de mon entreprise. Donc ça sort de manière claire, donc avec effectivement une pluralité de situations. Donc on n'est pas forcément aligné et quand on n'est pas aligné, on le dit de manière plus directe.
Et on s'en va.
Et on s'en va. On s'en va de son entreprise, on s'en va de son poste, on demande à bouger et on n'a aucune difficulté à l'exprimer, à le vocaliser, à l'exiger vis-à-vis de son chef.
Et ça pose un certain nombre de problèmes parce que les entreprises, elles, sont en recherche de compétences.
Oui, alors on vit dans un monde où finalement, je pense que les dirigeants ont clairement compris que l'accès au talent allait être une partie du nerf de la guerre. En tout cas reconnu dans notre étude CEO Survey. Et je pense que du côté des collaborateurs, il y a cette même perception qui a d'une part une guerre des talents et aussi un besoin d'évolution. Un besoin d'évolution des compétences avec une forte accélération des besoins d'évolution de compétences sur ce qu'on appellerait des soft skills. Donc ce qui revient en premier quand on interroge les collaborateurs sur ce qu'ils vont devoir développer comme compétences, on retrouve des sujets d'adaptabilité, pardon, de flexibilité, de capacité à raisonner. Et donc, toutes les choses qui sont un peu moins liées aux compétences techniques et dont on perçoit qu'il va falloir les développer, et ces éléments étant clairement identifiés de la part des collaborateurs.
Ça transparaît vraiment, hein, de manière claire, la volonté de ne plus être pris en compte finalement seulement selon son CV, ses diplômes, mais je suis aussi ce que mon expérience m'a permis d'être. C'est ça aussi qui transparaît dans cette étude.
Et pour nous, c'est une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle que les collaborateurs, les équipiers ne raisonnent plus de manière scolaire, mais sont en vraie évolution par rapport à leur comportement, par rapport à leur leadership, à leur capacité à collaborer. Et même si, par rapport, quand on compare la France avec les autres pays, on est un peu moins à l'aise sur ces soft skills, sur ce besoin de collaborer, où nos amis d'autres pays sont plus allants que les Français.
Il y a quand même encore près de 40% des collaborateurs qui estiment que finalement, ils sont surtout évalués non pas par rapport à leurs compétences, mais plutôt par rapport à aux différents jobs qu'ils ont pu exercer par le passé. Donc, il y a une nécessaire évolution de la façon de gérer ce sujet par les entreprises, qui est finalement de passer d'une logique de poste à une logique de vraies compétences, en se disant, finalement, on va créer de la fluidité. Et si on veut être capable demain d'employer des gens sur, ou de recruter des gens sur des postes en souffrance, sur des postes en tension, il va falloir être capable pour les entreprises d'aller chercher des gens qui ont certes les compétences, mais qui n'ont pas occupé ces mêmes postes, parce que sinon, on ne va pas les trouver.
Avec une bonne nouvelle, Raphaël, qui est que les chefs aident. Donc, est-ce que le management est un soutien pour apprendre autrement, pour grandir? Et notre étude dit plutôt oui, y compris en France, y compris en sécurité psychologique, en capacité d'être en soutien par rapport aux collaborateurs. Ce n'était pas le cas, on n'aurait pas eu la même réponse il y a 5 ans. Donc la tendance est claire, à la fois soft skills, oui, vu par les collaborateurs, et bonne nouvelle, plutôt relayée par leur manager.
Alors ce qu'on est en train de se dire, c'est encore plus vrai dans les jeunes générations, pour les jeunes générations qui attendent davantage aussi peut-être de l'entreprise, de son rôle pour faire en sorte qu'ils puissent se développer à l'intérieur de cette équipe dont on est en train de parler.
Oui, je pense qu'ils ont intégré le fait aussi que très probablement ils ne feront pas leur carrière, l'intégralité de leur carrière dans la même entreprise, et ils ont aussi je pense complètement intégré le fait qu'on allait aller de crise en crise ou de grande évolution en grande évolution. Et que ce qui allait faire leur boussole, c'est leur capacité à se réinventer de manière un peu permanente. Et donc, de ce fait, d'être assez solide sur ces sujets d'adaptabilité, de flexibilité et de capacité à embrasser le monde de demain, en fait.
Et dans ce travail du futur, quelle sera la place de l'intelligence artificielle ? Aujourd'hui, avec le développement d'outils comme ChatGPT, certains s'émeuvent, d'autres s'émerveillent. Ce qui est certain, c'est que le statu quo n'est pas possible et que demain, l'entreprise devra intégrer l'IA dans ses process. Mais les collaborateurs en ont-ils vraiment conscience ? Mathieu, Frédéric, c'est très clair, hein, les collaborateurs, quels qu'ils soient, s'interrogent, se pose des questions sur l'intelligence artificielle, sur son rôle aussi.
Nous avons été surpris par les résultats de l'étude. L'IA, même pas peur, nous disent les collaborateurs, alors que nous attendions à une vraie inquiétude globale sur le sujet. Non, l'IA, même pas peur. On a l'impression que ça peut accélérer sa productivité, ça peut améliorer son efficacité. Et par rapport à ça, le risque pour son emploi est très en retrait dans ce qui ressort de notre étude.
Alors, je compléterai qu'il y a une petite différence entre la vision mondiale et la vision française. La vision mondiale, je retraduis ce positivisme qu'évoque Frédéric. Il y a environ 30% des collaborateurs qui nous disent « Moi, je pense que cette IA dont on nous annonce finalement l'arrivée massive va avoir un impact positif, ça va améliorer mon efficacité, ma façon de travailler. » Et donc, pour un tiers d'entre eux, ils nous disent « Ça va être positif pour moi. » Et en France, on est plutôt sur des logiques à 19%. Donc, on sent une forme de différence ou de défiance, en tout cas de particularisme français sur la capacité à se projeter positivement sur l'IA. Et dans le même temps, un tiers des Français nous dit finalement, l'IA va probablement rien changer pour moi. Donc, il y a cette espèce d'impression où ils ne voient pas le positif, ils ne voient pas trop non plus le négatif et ils sont clairement en décalage avec le reste du monde.
Pour nous, donc, cette perception vis-à-vis de l'IA est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une ouverture au changement, à l'upskilling, à son évolution des compétences qui est une réalité et pas du tout le frein par rapport à ce qui sera un danger. Donc ça, c'est la bonne nouvelle et on peut être positif sur la capacité de changer là-dessus. La mauvaise nouvelle, c'est que nous, dans notre vision d'expertise, on voit un certain nombre de secteurs où les transformations vont être violentes, où on va arriver de nouveaux acteurs qui vont changer l'activité et effectivement, on va avoir encore plus que maintenant certains secteurs en pleine transformation.
Et j'ajouterais que cette différence, cette évolution, elle se retraduit différemment entre les personnes qui occupent des postes, on va dire, qualifiés aux personnes qui occupent des postes moins qualifiés. Les personnes occupant des postes qualifiés perçoivent environ 3 fois plus l'intérêt dans ce monde de l'IA de se renforcer sur des compétences qui vont être assez probablement moins touchées par l'IA, comme celles qu'on évoquait tout à l'heure, la flexibilité, l'adaptabilité, la capacité à apprendre de nouvelles choses. Et donc, il y a un vrai risque de fracture de compétences ou de fracture liée à l'IA, dans lequel il y aurait finalement ces deux mondes, avec un qui a compris qu'il fallait qu'il évolue et qu'il bouge, et un qui est un peu moins qualifié, qui est en retrait, avec un vrai rôle pour les dirigeants de ne pas laisser cette fracture s'installer.
Et avec, en même temps, c'est pour ça que la période va être passionnante, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de métiers qui sont a priori pas sous l'impact direct de l'IA. Par exemple, je suis conducteur de bus, le risque immédiat n'est pas très élevé, tandis que les travailleurs du savoir, ces gens plus qualifiés dont parle Mathieu, là, l'impact peut être direct, majeur, de remise en cause de l'emploi ou d'arrivée d'autres travailleurs du savoir qui travailleront autrement avec l'intelligence artificielle.
Ce qui est frappant, en fait, c'est qu'ils ont compris que ça allait être dans leur vie, mais parfois ne voient pas l'impact que ça peut avoir pour eux sur leur travail, sur leur propre emploi, à plus ou moins long terme, hein, si on regarde dans les 5 ans à venir. Parce que c'est encore trop peu répandu, par exemple, chez nous, ou parce qu'on l'a mal expliqué, ou pas encore assez expliqué ?
Je pense qu'on peut dire qu'on est passé d'une phase où on annonçait une révolution liée à l'intelligence artificielle, à une nouvelle phase qui s'est très probablement traduite par l'arrivée de ChatGPT ou d'outils de ce type-là, où d'un seul coup, ça devenait un peu mass market, accessible, et en un clic, on peut se rendre compte qu'en tapant une demande, on a quelque chose de tout de suite très concret. Donc là, il y a une réelle prise de conscience, on va dire, collective. Il y a encore un peu de mal à traduire cette prise de conscience collective sur les capacités apportées par l'IA en impact sur mon métier, ma fonction, mon avenir. Je pense que ça va être la prochaine étape.
Ouais, ça, ce n'est pas forcément vrai dans les autres pays, Frédéric. Pour quelle raison ?
La force des mots-clés et des modes, c'est que ça permet de raisonner de manière différente et puissante dans certains cas. C'est vrai que probablement, nous, Français, sommes un peu plus critiques face aux innovations. Donc, on a vu le métavers, on voit arriver l'intelligence artificielle ChatGPT. Et donc, c'est avantage, inconvénient de notre raisonnement critique français.
Oui, parce qu'on est en deçà des seuils internationaux. Hein, quand on regarde, il y a une défiance très française vis-à-vis de tout ce qui est un peu inconnu. Et pourtant, ça ouvre de nouvelles opportunités, de nouvelles compétences, ça peut apporter de l'aide, de oui. L'efficacité. Tout ça, on ne le voit pas, on ne le perçoit pas.
On le voit, on a quand même, Raphaël, vous êtes trop dur, on a quand même une enquête qui montre vraiment cette ouverture. On s'attendait à des chiffres bien moins positifs que ce qu'on a vu là-dessus. Ils le sont un peu moins en France que dans d'autres pays. D'accord, mais la tendance à l'ouverture est réelle, ça c'est une bonne nouvelle. Mais effectivement, nous, dans notre rôle de conseil, on va dire attention, notamment pour les métiers du savoir, parce qu'il y aura des disruptions qui pourront être majeures avec l'arrivée de nouveaux acteurs qui pourront mobiliser l'intelligence artificielle et qui seront une vraie concurrence pour les autres.
Est-ce que c'est à l'entreprise de donner des clés ? Les dirigeants sont plus confiants manifestement que les collaborateurs sur ces sujets-là ?
Je pense qu'il y aura un rôle, une responsabilité pour le dirigeant et pour l'entreprise indéniable sur le fait de devoir apprendre ou de devoir accompagner les collaborateurs pour leur permettre de savoir utiliser ces nouvelles solutions. Il faut passer d'un monde où finalement on avait de la connaissance, un monde où on sait la chercher, on sait l'utiliser, on sait comment l'acquérir et où la trouver. Et il ne faut pas être naïf, apprendre à la chercher, c'est en soi une compétence. Donc l'entreprise va devoir apprendre à l'ensemble de ses collaborateurs à utiliser ces nouveaux outils pour tirer profit de ces solutions et mettre en situation tout le monde de sortir de façon gagnante de cette évolution.
Et en même temps, on voit que les collaborateurs ne sont plus en attente systématique de la part de quelque chose qui descendrait de leurs dirigeants. Ils sont acteurs. Et ça, ils le disent bien dans l'enquête, c'est eux qui vont mobiliser par eux-mêmes les différents outils pour monter en compétences. Et ça, c'est aussi une bonne nouvelle.
Les enjeux sont nombreux pour faire la révolution du travail, que ce soit sa place, mais aussi ce qu'il est, pour intégrer aussi de nouveaux outils qui vont participer au changement, voire l'accélérer. Et si tout cela entraînait aussi la création d'un nouveau modèle d'entreprise, où l'ESG, notamment, est une des pierres angulaires. La question du changement de modèle avait été posée aux dirigeants, il me semble, Mathieu et Frédéric, et tous étaient catégoriques, il y avait urgence à faire changer le modèle pour que l'entreprise puisse durer et ne pas disparaître. Les collaborateurs, dans l'étude que vous venez de mener, le pensent aussi, mais l'analyse n'est pas la même. 1 sur 4 seulement, quand c'est 1 dirigeant sur 2. Hein. Là encore, on en revient à une question de point de vue.
Alors, moi, je serais moins critique sur la différence. Donc, effectivement, 1 sur 2 dirigeants pensent que s'il ne fait rien, l'entreprise qu'il dirige va disparaître dans 10 ans. Et on est sur, finalement, 2 fois moins chez les collaborateurs. Je pense qu'il y a un effet de rattrapage. Et je serais plutôt dans une lecture positive de cette différence en disant, finalement, ils s'accordent tendanciellement, ces deux populations, sur le fait qu'il y a un horizon de temps, 10 ans environ, au-delà duquel, si on ne bouge pas vraiment, il va se passer quelque chose. Et la traduction ou l'action, ou la mise en action, elle est assez claire pour les deux populations aussi. C'est-à-dire que d'un côté, les dirigeants nous disent notre priorité, c'est l'upskilling, la mise à niveau des compétences. Et de l'autre côté, il y a quand même une forme de confiance des collaborateurs, à peu près 1 sur 2, qui estiment que l'entreprise est en train de mettre des moyens qui leur permettent, eux, collaborateurs, de se mettre à niveau et d'appréhender cette transformation nécessaire du modèle.
Il y a un point qui nous a presque choqués, c'est la différence de génération. Les anciens, ou les jeunes anciens, disons au-delà de 35 ans, de 40 ou de 45 ans, n'expriment pas de forte inquiétude. Et c'est soit parce qu'ils considèrent que leur départ est proche et que la transformation de leur entreprise n'est pas un enjeu majeur, tandis que les jeunes, on a une différence de 1 à 4 pour l'inquiétude qu'ont les jeunes sur le sujet. Et les jeunes, à moitié d'entre eux, considèrent que leur entreprise n'existera plus, que leur modèle ne tiendra plus dans les 5 à 10 ans qui viennent. La différence est absolument considérable.
Et c'est la raison pour laquelle, quand on leur pose la question, certains disent... Allons-y doucement à notre rythme. Et les jeunes disent non, il faut accélérer encore, sinon ça risque d'être même avant les 10 ans.
Oui, effectivement, on est plutôt sur les 5 ans quand on interroge les jeunes et sur les 10 ans quand on interroge les personnes plus âgées.
Et avec un point, Raphaël, qu'on voit bien, il est hors de question maintenant d'attendre que ça vienne. Il faut que je sois acteur pour bouger vite et surtout pas attendre quelque chose de la part d'une entreprise qui elle-même risque de ne plus exister dans très peu de temps.
Ça, c'est quelque chose qu'on voit en France. On voit la même chose à l'international, Frédéric.
La tendance générale, c'est « je dois être acteur ». La tendance est très forte, était déjà classique dans le monde anglo-saxon. Donc la France se rapproche plutôt de cet univers-là. Mais très clairement, effectivement, c'est la tendance forte. Moi, acteur, moi pour construire mes compétences et mon parcours.
Ce qui correspond d'ailleurs à l'évolution de toute la formation professionnelle. Où en fait, en France, on a commencé à restructurer cette logique de formation de façon à ce que chaque collaborateur se saisisse de son parcours et que la formation ne s'arrête pas au début de la vie professionnelle.
Je parlais tout à l'heure d'ESG comme matrice. Ça ressort aussi dans les attentes des collaborateurs. L'entreprise doit agir pour la planète et ils doivent agir, eux, en interne pour que ce soit un sujet phare de l'entreprise.
Plusieurs points ressortent de notre étude sur le sujet. Un point de relative surprise pour nous, c'est, moi collaborateur, l'aspect des compétences vertes, des compétences de vision du monde, de la biodiversité ou autre, n'apparaît pas comme premier dans les compétences dont je ressens la nécessité. Non. Mais c'est aussi parce que mon travail n'est pas suffisamment directement connecté avec la transformation du modèle de l'entreprise. Et donc là, il y a un vrai point avec une vision des collaborateurs que la crédibilité de leur entreprise pour changer de modèle est une crédibilité qui ne va pas de soi. La moitié d'entre eux n'y croient pas.
Oui, les dirigeants, eux, ont le sentiment d'être assez efficaces. Là où les collaborateurs répondent... à notre avis, ils n'en font pas assez. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de faire savoir, peut-être ?
Je répondrais qu'il y a déjà une bonne nouvelle, c'est que tout le monde partage l'impression ou le sentiment qu'il fait partie des devoirs des entreprises de s'intéresser à ce sujet-là. Donc il y a une responsabilité de l'entreprise de lutter contre le changement climatique. Pour autant, comme le disait Frédéric, et comme le montre l'étude, bon nombre et la majorité des collaborateurs nous disent que ce que fait l'entreprise est insuffisant. Comme il y a une espèce de paradoxe par rapport au fait qu'ils n'estiment pas eux-mêmes devoir se former, moins de 30% d'entre eux estiment que les compétences vertes sont nécessaires, on voit qu'il y a un besoin de reconnecter, les actions que l'entreprise peut réaliser pour les rendre plus visibles, les rendre plus l'affaire de tous, et d'autre part, d'arriver à faire le lien entre cette transformation verte et les compétences nécessaires pour que tout un chacun soit capable de l'embrasser, de la diffuser, d'en faire partie.
C'est ce que vous préconiseriez, effectivement, pour qu'il y ait davantage d'adéquation entre dirigeants et collaborateurs?
Ce qu'on préconise, c'est de faire de ces sujets de transformation de modèle un sujet à tous les niveaux. C'est bien sûr les dirigeants qui doivent tirer le fil et ne pas hésiter à être plus cash, plus explicite sur la transformation de leur modèle, y compris quand ça montre une rupture par rapport à l'actuel. Mais c'est aussi au niveau du management et des équipes sur moi là-dedans, qu'est-ce que je dois faire à mon niveau, comment l'équipe doit s'organiser, quelles sont les compétences que je dois faire et ne pas attendre que ça descende du sommet. Donc on a vraiment un enjeu de transformation culturelle à tous les niveaux. Du dirigeant dans son explicite vis-à-vis des équipes et quitte à aller plus vite, et des équipes et des collaborateurs pour prendre leur part de manière plus résolue.
Nous sommes encore à la croisée des chemins. Le monde post-Covid avec le télétravail, l'hybridation des modèles a commencé à révolutionner les méthodes, mais les générations qui arrivent vont encore demander davantage en matière de flexibilité sur le lieu, le temps, les contrats, du sur-mesure en somme pour que l'individu puisse s'épanouir. Toute la question est de savoir comment il pourra le faire dans un cadre collectif avec des règles qui demain seront sans cesse appelées à évoluer. Frédéric Petitbon, Mathieu Aubusson, merci.
Merci.
Retrouvez cette étude sur pwc.fr.